sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales patriotas.
Sur les chemins de l'exil. Une série documentaire de résonance sonore. Angel, enfant de la Retirada. Angel assiste à la mort de sa mère sous les bombes de Barcelone en juillet 1937. Il n'a que 9 ans. Son père, au front, lutte pour la République. Il le place avec sa sœur et son frère dans une colonie près de Gironde. Il pense ainsi les protéger en les éloignant des zones de combat. Cela est sans compter l'avance des troupes nationalistes sur le pays. Le 26 janvier 1939, les franquistes arrivent sur Barcelone. Les républicains et la population civile fuient vers la France. Pour certains, cette fuite elle a commencé bien avant, avec l'arrivée des fascistes en Andalousie. En effet, parmi eux, il y a des survivants de ce qu'on appelle la route de la mort. C'est entre 100 000 à 300 000 personnes qui avaient fui Malaga en février 1937, essentiellement des femmes, des enfants, des vieillards. Ils ont été mitraillés par l'aviation allemande et bombardée par les canons de la flotte de Mussolini sur les 200 km de la route du littoral qui les séparait de la ville d'Almeria. Et ce, sans relâche, pendant presque une semaine, les morts se comptent par milliers. 2 ans après la route de la mort, une tragédie qui continue, avec ce qu'on appellera la Retirada, un exode sans précédent dans l'histoire contemporaine de l'Espagne. Ils sont encore plus nombreux à fuir l'arrivée des troupes franquistes après la chute de Barcelone. En seulement 15 jours, près d'un demi-million de personnes franchissent la frontière des Pyrénées pour se réfugier en France. Ils sont également mitraillés et bombardés de manière intensive par l'aviation allemande et italienne. Angel fait partie de ce flot humain qui tente, comme il le peut, de se mettre à l'abri.
Il y a des camions militaires qui sont venus nous chercher. Parce que les fascistes, ils étaient à Barcelone. Et on nous charge dans des camions, là. Et puis on s'en va vers la France.
Nous sommes environ 120 enfants, répartis dans 4 ou 5 camions. Nous nous mettons presque tous à pleurer. Maxi, José et moi montons dans le même camion. Je leur dis, nous ne devons pas nous séparer, il faut rester ensemble. Au fur et à mesure que nous avançons, nous dépassons des groupes de personnes qui marchent en longue file sur la route. Tous sont chargés, certains très fatigués.
Sur la route, on voit des gens qui marchaient depuis des jours. Alors là, c'était la vraie misère qu'on voyait. Et nous, on allait dans des camions et on voyait des enfants qui marchaient, qui se traînaient.
Muni d'oreilles et privé de langue, un monde passe sur la route. Il s'est formé du néant. Le vent du sud l'a apporté et il l'embouteille à Figueras. La route de la Junquera est un entonnoir. Les champs exposés au soleil sont devenus des garages. La ville déborde d'automobiles et de camions. C'est comme un sang noir qui coule des 100 blessures que la nuit lui a faites. Un monde à moitié mort, qui marche sur deux jambes comme s'il n'en avait qu'une. Un monde qui ne sait que marcher, et qui sait pourtant que marcher ne résout rien, mais qui marche quand même, pour se prouver qu'il existe encore.
Quand on arrive à Figueras, les camions s'arrêtent, ils nous déchargent, ils nous distribuent par groupe, pour qu'on se repose un peu, pour nous donner un peu à boire et à manger. Pour moi, le groupe où j'étais, moi, on devait être une quarantaine, eh bien, c'était comme une petite église. Pas une chapelle, c'était plus grand. J'étais une quarantaine. Il y avait de la paille par terre et tout. Alors, on nous laisse là-bas dedans. On nous porte du lait chaud, et des gâteaux. La marque Maria. Je ne dis pas si ça existe toujours. C'est des gâteaux secs. Ça faisait pas longtemps. C'est pas, on n'avait pas fini de manger ni de boire. On entend les moteurs d'avion, las pavas, on appelle ça las pavas, c'est les dindes. On entend las pavas. Oh,
un faible sifflement qui se déploie en éventail. Un son qui grandit, comme une pyramide construite en commençant par le sommet. Un éclair devenu tonnerre, une terrible secousse cramoisie. Un souffle inouï des entrailles du monde.
On s'est mis à trembler, à pleurer, je ne sais pas, à se cacher comme on pouvait, etc. Puis au bout d'un moment, il y a des bombes qui sont tombées, les murs de l'église ont commencé à s'écrouler, sur nous, bien sûr. Beaucoup d'enfants ont pleuré, d'autres ne disaient plus rien. Il y avait un peu de sang partout. Puis ceux qui étaient dans les angles, ça résiste davantage. Et bien, je crois que c'est ceux qui ont pu nous sauver. Nous sommes sortis en courant. Et puis, bon, au bout de quelques mètres, on a regardé l'église là-bas, on fait ses murs. C'était tout écroulé. Mais on entendait encore des voix « Madre, madre, madre ». Il y a eu un moment qu'on avait envie de... Enfin, il y avait un autre avec moi, là, qui était de mon âge. Là, j'avais déjà 10 ans. Et qu'on avait envie d'y aller, là-bas. Et puis, on a eu peur, puis on n'est pas allé. Et ça, je l'ai dit souvent, parce que j'ai eu toujours des remords là-dessus, là. Je me suis dit, mais tu aurais pu y aller et sauver quelqu'un, peut-être. Mais après, bon, des gens qui... Me connaissait bien, me dit, et tu aurais fait quoi? Tu sors un enfant blessé, tu fais quoi? Si tu avais 10 ans, et un frère de 4 ans, et une soeur de 6 ans, tu fais quoi? Et c'est vrai. Donc c'était le cœur qui commandait, puis la raison. La raison, c'était pas d'y aller, il fallait pas y aller. On ne pouvait rien faire.
Sous les bombardements de cette petite chapelle, à Figueras, 26 enfants succombent. Pasquale, Floréal, Morales, Carmela, et la liste est longue.
J'ai pris Maxi et José par la main, et nous sommes partis en courant, hors de cet endroit de mort et de désolation. Quelques mètres plus loin, nous nous sommes arrêtés. Nous avons tourné la tête pour regarder l'emplacement de cette tombe qui n'avait pas voulu de nous.
Bon, alors à partir de là, nous avons perdu les camions. On n'a plus trouvé les camions. On s'est réuni quelques enfants, et puis quoi faire? On est rentré dans ce fleuve. Autrefois, c'était des humains, et maintenant, c'était plus rien. C'était que de la misère. On a suivi. On va vers la liberté, la France est la liberté. On ne comprenait pas, nous. La seule chose qu'on comprenait, c'est qu'il fallait marcher. Et puis c'est tout, pour suivre les autres. Donc regardez bien une chose. Des enfants de cet âge-là marchaient pendant 30 kilomètres. Il y avait de la neige. Il n'y avait plus. Il y avait un froid glacial. Bon, glacial. On était couverts avec des capes. On n'avait rien à manger. Rien à boire.
Il y a 1000 charrettes. Des chevaux les tirent sans effort. Les charges ne sont pas lourdes, mais encombrantes. Ceux qui fuient emportent beaucoup de choses, mais qui ne pèsent pas. Les matelas occupent de la place. Les cages, c'est de l'air. Les lapins et les poules ont besoin de mouvement. Les lits sont en bois et servent de ridelles. Dans les paniers suspendus au-dessous, la vaisselle et les casseroles. Ce ne sont pas des charrettes bâchées pour voyager sur les routes, mais des charrettes avec de grandes roues et des jantes grinçantes qui ne sont allées qu'aux champs. Les ballots forment de grosses boules au-dessus des édaux. Dans les sacs, la charrette devient une grappe tremblante, l'attelage que la bête seule traîne, museau bas, crinière et poils sales, garrot et flancs râpés, pâturons sanglants, canons et couronnes couverts de terre. Sur la charrette, il n'y a de place pour personne, sauf pour quelques vieilles femmes jetées là comme un paquet noir. Ce ne sont ni reines ni brides qui dirigent la bête. Ce n'est pas le mort qui l'a fait aller à droite ou à gauche, c'est le flot qui l'entraîne. Chaque charrette est un monde autour duquel gravitent à grand-peine ses satellites et qui se dirigent vers la frontière française. Tous les chargements sont différents. Aucune charrette ne ressemble à une autre. Mais pourtant, elles sont toutes pareilles.
Alors pour manger, qu'est-ce que fait sur nous ? Eh bien, vous savez, quand les gens partent, qui partent comme ça, ils essaient de charger le maximum possible. Puis ils chargent des boîtes de conserve et tout, parce qu'ils vont bien manger. Mais il arrive un moment qu'un kilo, quelque chose qui pèse un kilo, représente une tonne. Quand on est tellement fatigué, représente une tonne. Alors les gens, ils jetaient des boîtes de conserve qu'ils portaient avec. Donc il y avait des boîtes avec des haricots, d'autres c'était des boîtes de lait concentré. J'ai toujours eu un petit canif. J'en ai toujours. Le même système. Le canif suisse qu'on appelle. Voilà. Et j'en avais un plus petit que celui-là. J'en avais un comme ça. Donc il y a l'ouvre-boîte et de lama. Voilà. Et bien heureusement que j'avais ce petit canif. On trouvait des boîtes, il me fallait les ouvrir. Et moi, comme j'avais le canif, je pouvais ouvrir les boîtes. Voilà. Et comme ça, on mangeait. On mangeait comme ça. Des fois, on s'attardait un peu, quand on voyait des gens qui allumaient un peu de feu, on se mettait là-bas pour se chauffer. Jamais on nous a rejetés. Jamais. Jamais. Ils nous laissaient là-bas, puis après, bon, eux, ils partaient, et nous, on partait aussi. Et puis après, sur la route, on a trouvé une couverture aussi, que j'ai ramassée. J'ai trouvé deux gourdes que j'ai prises. Elles nous ont sauvés.
Les femmes sont vêtues de noir, comme si elles étaient en deuil. Mais leurs ballots sont enveloppés d'étoffes de couleur. Les couvertures sont grises avec trois rayures blanches. Peu de femmes ont des souliers, des espadrilles ou des sandales. Parmi les couleurs qui réapparaissent avec l'aube, les plus visibles, les seules claires, sont celles des pansements et des plâtres.
Et puis en marchant, mon frère, à lui, il avait 4 ans, quand il voyait une maman, enfin, des jupes, à l'époque, les jupes, c'était pas les mini-jupes qu'elle prenait, puis de toute façon, c'était en hiver, donc il avait des grandes jupes. Et bien, mon frère, il s'accrochait à une jupe, parce que c'est une maman, lui. Bon, alors, on ne lui a jamais donné une jupe ni quoi que ce soit, mais petit à petit, on s'en est débarrassé. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais... Vous voyez, une maman, à l'époque, les mamans, elles avaient 4 ou 5 enfants, presque tous. Une maman, ne serait-ce qu'avec 4 enfants, ou 3 enfants, qui marchent. Il arrive un moment que les enfants aussi, ils sont petits, ils sont fatigués, et ils lâchent la jupe. Et la maman ne se retourne même pas. continue à avancer. C'est un robot. C'est une personne qui n'a plus d'âme, elle n'a plus rien. C'est une personne qui avance parce qu'il faut avancer. Puis elle accroche le petit qu'il a. Mais l'autre, elle ne se rend même pas compte qu'elle a des enfants. Elle ne se rend même pas compte. Et c'est comme ça qu'on se trouvait énormément d'enfants ensemble. Énormément d'enfants. Mais c'est pas que la maman avait abandonné son fils, loin de là. C'est qu'elle n'était plus elle, tout simplement. Voilà.
Un vieillard pousse une brouette. Fatigué, il s'arrête. Un enfant prend sa place. 100 mètres plus loin, il n'en peut plus. C'est au tour de sa mère. 30 mètres plus loin, de nouveau celui du grand-père. Plus loin encore, un soldat porte sur le dos une brebis.
Et puis après, vous aviez les avions, les chasseurs italiens. Ceux-là, c'était des Italiens qui passaient puis qui mitraillaient. Il y a eu un homme qui s'est mis au milieu de la chaussée, là-bas, et puis s'est déboutonné complètement. Et en faisant voir sa patine, il disait « Cabrone, je vous déboutre, vite, allez, ce que tu es là. Fils de pute, c'est ici qu'il faut tirer. » Bon, l'avion, c'est pas qu'il a entendu, mais comme les avions, ils allaient, ils revenaient, puis mitraillaient, puis il a fait demi-tour, puis il a continué à mitrailler, puis il a tué là-bas. Mais ça, nous l'avons vu, nous. C'était devant nous, des enfants. Et moi, j'étais grand, j'avais 10 ans. Devant nous, on l'a vu comment il l'a tué. Alors, quels sont les souvenirs qui restent dedans? On ne peut pas les oublier. Alors, tout ça, ça reste. Toutes ces misères, toutes ces atrocités, et ça s'accumule. Et après, beaucoup deviennent fous, tout simplement. Ou alors ils se taisent et ils ne parlent plus, parce qu'ils ne peuvent pas faire naître tout ça. Est-ce que ce n'est pas un assassinat? On ne mitraille pas des militaires, c'est une population. Une population qui est déjà morte, pratiquement, qui ne sert à rien. Des femmes, des enfants, des vieillards. Il passe et il mitraille.
Ces gens ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils fuient. Ce n'est pas la peur. Ils ne veulent pas être fascistes. Qu'est-ce qu'ils espèrent trouver en France? Ils ne le savent pas. Ils ne veulent pas être fascistes. C'est tout.
Le moment le plus horrible est l'arrivée de la nuit, avec son froid et ses pluies discontinues. Quand nous reprenons la route, nous y trouvons fréquemment des corps inanimés. Certains sont déjà morts, d'autres agonisent. Avec le cœur vide, nous faisons face au froid, à la soif, à la faim, fuyant le tyran. Nous avançons sur les chemins de la désolation vers un destin inconnu, abandonné de la petite étoile de l'espérance.
C'était Angel, enfant de la Retirada, sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore soutenue par la région et la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.